Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Professeur Karine Lacombe, bonjour.
Bonjour.
Chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Nous allons parler évidemment de l'épidémie, faire le point, mais nous allons préciser les choses sur les variants et sur les vaccins. Pourquoi les vaccins ? Parce que, je regardais les dernières informations, Janssen, le fameux vaccin Janssen, une dose Janssen. Le fameux vaccin Janssen ne protège pas suffisamment du virus. Que se passe-t-il ?
En fait, c'est un vaccin qui est un vaccin à vecteur viral.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'est pas la technologie du micro-ARN comme le vaccin Pfizer ou
Moderna. Oui.
C'est un vaccin qui avait le grand avantage d'être administré en une injection.
Oui.
Or, on constate avec un peu de recul, avec quelques mois de recul, que finalement une seule injection avec un vaccin à vecteur viral n'entraîne pas une apparition d'anticorps assez importante et surtout assez durable dans le temps pour avoir une protection.
Donc 1 million de personnes l'ont reçu, ce vaccin Janssen, et ces personnes vont devoir être vaccinées. Une deuxième dose.
Avoir une deuxième dose
avec Pfizer, un Moderna ou encore un Janssen. ARN messager. Donc un Pfizer ou un Moderna.
Tout à fait.
Est-ce que pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca par exemple, l'efficacité est confirmée aujourd'hui ? Non, mais je vous dis ça parce que ça jette un doute, pardon, sur les vaccins.
Alors attention, ce n'est pas la même chose. Alors justement, c'est très important ce que vous dites parce que on voit bien que on a besoin de temps pour comprendre l'efficacité et également la sécurité d'emploi d'un vaccin.
Oui.
Un vaccin, c'est comme un médicament. C'est quand on va l'utiliser à très grande échelle qu'on va voir tout son potentiel. Et on voit qu'avec les vaccins ARN messager, ceux qu'on utilise le plus en France, on a une protection très importante. Et d'ailleurs, on voit que c'est la raison pour laquelle on est en train de sortir de l'épidémie.
On va en parler.
Effectivement, avec le vaccin Janssen, les quelques mois que l'on a eu sur son utilisation nous ont montré que la protection initiale est très bonne. En revanche, elle disparaît plus rapidement dans le temps, d'où l'importance de faire une deuxième dose avec un autre vaccin.
Est-ce qu'on aura bientôt d'autres vaccins ARN messager que Pfizer ou Moderna ?
Oui, alors il y a un vaccin d'un autre laboratoire français qui est en développement et on espère l'avoir pour 2020. On attend là aussi les résultats.
2022. Sinon, bon. La vaccination obligatoire à partir de demain pour tous les personnels des hôpitaux et cliniques, des maisons de retraite, pour les pompiers, les infirmiers, les aides à domicile. Si refus, donc, rupture de contrat de travail. Dans votre hôpital, il y a des conséquences. Franchement, est-ce qu'il y a, des opérations qui sont déprogrammées ? Est-ce qu'il y a beaucoup de soignants, de personnel de l'hôpital qui ne veulent pas de cette vaccination ?
On a des problèmes de fonctionnement, mais qui très honnêtement ne sont pas liés aux personnes qui ne veulent pas se faire vacciner et qui donc vont être en disponibilité. On a des problèmes de fonctionnement parce qu'on a des personnels qui sont en burn-out après un an et demi d'implication majeure dans la crise sanitaire. On a des personnels qui se sont blessés, donc qui sont arrêtés. Donc ce n'a pas de lien avec le vaccin, mais effectivement, on a des problèmes de fonctionnement. Mais pas du tout en lien avec
Pas du tout en lien avec le
pas
vaccin.
Pas du tout en lien avec
à
le vaccin.
À Saint-Antoine, pas du tout, dans votre hôpital.
Il n'y a pas de problème de fonctionnement en lien avec le vaccin.
Il y a beaucoup de personnel qui refuse le vaccin, beaucoup.
Alors, je pense qu'un peu comme dans la société dans son ensemble, on a des membres du personnel qui ont
10%,
refusé.
15%.
Non, probablement plus aux alentours de 5%, 5 à 10%. Après, c'est vrai que de toute façon, le refus de se faire vacciner, c'est vraiment une décision qui est individuelle. C'est vrai qu'on a du mal à le comprendre quand on est soignant. Quand on est soignant, on est plutôt à jouer le collectif. C'est vraiment un métier où le collectif est très important. Vraiment, les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner, qui sont des soignants, c'est vraiment une décision qui est purement individuelle et qui d'ailleurs est difficile à appréhender.
Oui, mais vous dites, Karine Lacombe, c'est une décision purement individuelle. Oui, mais il y a des règles, hein, puisqu'on impose cette vaccination obligatoire. D'ailleurs, vous aviez appelé à la vaccination obligatoire des soignants.
Bien sûr.
C'était début juillet, je me souviens très bien.
Mais c'est pour ça qu'on arrive à 95% de vaccination des soignants.
Vous dites que c'est une décision personnelle. Justement, le soignant qui ne veut pas du vaccin, son choix n'est pas respecté, Karine Lacombe.
Alors attention.
Il risque de perdre son boulot, il risque de ne plus être payé, son choix n'est pas respecté.
Bah écoutez, il y a beaucoup de métiers que l'on peut pratiquer. On voit que dans le soin, l'intérêt est collectif. L'intérêt est collectif. Quand on s'engage dans le soin, on pense aux autres. Et penser aux autres, c'est faire en sorte d'être vacciné, protégé, pour ne pas se contaminer, mais pour ne pas non plus contaminer les autres. Donc c'est une démarche qui est altruiste. Là où on respecte la décision, c'est qu'on ne veut pas se faire vacciner, on change de métier, on se met en disponibilité, on change de métier.
Vous dites, on ne veut pas se faire vacciner. Chez les soignants, on change de métier.
À partir du moment où on a mis en place l'obligation vaccinale dans un but d'intérêt collectif, on prend sa décision en conscience, on se fait vacciner parce que on fait partie d'une profession qui est tournée vers les autres, tournée vers le collectif. Si on ne souhaite plus s'engager dans cette voie-là, on change de métier.
Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les soignants qui refusent la vaccination, notamment les médecins, sont irresponsables ? C'est de l'irresponsabilité ou pas ?
Je ne veux pas juger de la responsabilité ou pas d'une personne qui refuse de se faire vacciner. C'est un choix personnel que l'on respecte, mais on lui demande de changer de métier. Peut-être que ce n'est que transitoire, comme le pass sanitaire. Le pass sanitaire est transitoire. Peut-être que cette obligation vaccinale des soignants sera transitoire. On verra dans le futur.
La troisième dose, l'enjeu, ce sont les personnes à risque. Comme au début de la vaccination,
Les personnes âgées, les personnes immunodéprimées.
Protéger les plus fragiles. Parce que l'efficacité des vaccins diminue avec le temps, Karine Lacombe. C'est confirmé.
Alors, ça dépend. Pour l'instant, vous savez, on n'a pas tellement de recul. En population générale, on a 8 mois de recul. Oui. Donc, c'est difficile. À l'échelle de la crise qu'on vit, on a l'impression que c'est très long. Mais à l'échelle de la médecine, c'est très court. Donc, 8 mois, on voit qu'une personne qui n'a pas de comorbidité, qui n'est pas âgée, qui n'est pas trop âgé, qui n'est pas immunodéprimé, a une immunité qui persiste pendant ces 8 mois. Donc vraiment, pour l'instant, la troisième dose, ce sont les personnes âgées chez lesquelles, de toute façon, tous les vaccins ont une efficacité qui diminue avec le temps. Ce sont les personnes immunodéprimées et puis ce sont les personnes qui ont des faits, qui conjuguent tous ces facteurs de risque.
Vous recommandez la vaccination des 12-15 ans ? Karine Lacombe.
Je recommande la vaccination à partir de 12-17 ans, parce que ce sont des adolescents qui ont un risque individuel de faire des formes graves et qui ont un risque collectif de participer au maintien de l'épidémie dans les proportions qu'on a connues jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à l'avènement de la vaccination.
Regardons l'épidémie d'ailleurs, où en est-elle cette épidémie ? Le ralentissement est confirmé, c'est un ralentissement très net.
Extrêmement
vous le constatez
net.
Dans
bien
votre
sûr.
Hôpital
oui. Bien sûr. Et on voit bien d'ailleurs que les personnes qui arrivent actuellement à l'hôpital avec un Covid sont des personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui sont vaccinées alors qu'elles ont une immunodépression qui font qu'elles ne développent pas d'anticorps. On a quelques personnes qui arrivent doublement vaccinées, mais avec des tableaux cliniques pas du tout de la sévérité qu'on avait
en dehors
de la vaccination.
Oui, elles ne se retrouvent pas en réanimation.
Tout à fait. Là, très très récemment, début de semaine, on a des personnes âgées qui sont arrivées avec double vaccin, 87 ans, qui aurait développé une forme grave quand on était au cœur de l'épidémie et qui, là, vont sortir.
Donc,
au
le vaccin
deux jours
protège, c'est confirmé, c'est bon. La quatrième vague reflue. Pourquoi est-ce qu'elle reflue ? Grâce à la vaccination ?
Il y a probablement une intrication de plusieurs facteurs. Vous savez que la prévention, ce n'est pas uniquement une prévention vaccinale, c'est aussi une prévention combinée. Donc, il y a quand même le port du masque, le lavage des mains, etc. Il y a, évidemment, de façon essentielle, la vaccination.
La vaccination. Est-ce que l'épidémie va s'éteindre naturellement ? Je vous dis ça, vous êtes infectiologue.
Non. L'épidémie ne va pas s'éteindre.
Nous vivrons donc avec ce virus.
Exactement.
Mais nous vivrons sans souci.
On devrait vivre avec beaucoup, beaucoup moins de soucis. On va rentrer dans une phase endémique. C'est-à-dire que avant que le Delta n'arrive, on espérait pouvoir se débarrasser un jour du SARS-CoV-2, de ce coronavirus qui nous a quand même énormément impacté depuis 18 mois. Avec le Delta qui est arrivé, et avec probablement des réservoirs animaux qui ne sont pas pour l'instant identifiés, mais on suppose qu'il y a un réservoir animal dans lequel le virus peut persister et ensuite contaminer l'homme, et rien que les transmissions entre hommes, on est dans une phase endémique. Donc, on va continuer à voir arriver dans les hôpitaux des personnes atteintes de Covid-19. Avec la vaccination, on va retourner vers une vie normale avec le virus. En tout cas, on va tendre vers une certaine normalité, bien que le virus va persister.
Oui, avec de nouveaux variants. plus contagieux ? Est-ce qu'il y a le risque ?
On ne sait pas. Vous savez, alors, on a parlé il y a quelques semaines.
Variant en Colombie.
On voit bien
de nouveaux variants en Afrique du Sud.
Bien sûr, mais maintenant, on est en train de sortir de la pandémie. Je crois que cette histoire de variants va devenir vraiment une histoire de spécialistes. Les spécialistes vont discuter à longueur de conférences de ces variants, de leur impact, etc. Pour l'instant, la vaccination, telle qu'elle est envisagée, couvre tous les variants et de façon
efficace. Est-ce que la vaccination limite l'émergence de nouveaux variants ?
Absolument. Bien sûr. En diminuant le nombre de personnes susceptibles d'être infectées, elle diminue la portion de la population dans laquelle le virus peut se multiplier et peut muter et donc entraîner de nouveaux variants. Donc absolument, la vaccination, c'est indispensable pour maîtriser les variants.
Est-ce que nous sommes en train d'atteindre une immunité collective ? Dont on a tant parlé, immunité collective.
C'est vrai que ce concept d'immunité collective a été très décrié. Je pense que plus que l'immunité collective, qui peut être variable, comme vous dites, l'immunité collective, c'est la somme des personnes vaccinées et des personnes immunisées par la maladie. On sait que les personnes immunisées par la maladie, si elles ne se vaccinent pas, perdent petit à petit une bonne part de leur immunité. Oui, de façon globale, on peut dire que l'immunité collective est en train d'être atteinte. Et on voit bien que, d'ailleurs, c'est ce qui nous permet de maîtriser l'épidémie et de sortir de ces 18 mois de pandémie.
Je prends l'exemple israélien. En Israël, la vaccination n'a pas suffi.
Alors attention, en Israël, on parle du nombre de cas positifs, mais en termes de mortalité et en termes d'admission à l'hôpital, c'est extrêmement réduit. C'est ce qu'on voit en France, c'est ce qu'on voit également en Angleterre. Alors qu'en Angleterre, ils avaient un taux d'incidence qui était bien plus élevé que nous.
En France, je regardais ces chiffres, la vaccination a permis d'éviter 47 000 morts. Et 40 000 entrées en soins intensifs. En vaccinant, on a sauvé l'hôpital.
On a sauvé l'hôpital. On s'est tous sauvés.
On s'est tous sauvés. En vaccinant, avec le vaccin, on s'est tous sauvés.
Bien sûr. Ça a vraiment été notre arme de retour vers une vie normale. On a quand même beaucoup repris le travail en présentiel, ce qui est très important pour la cohésion des équipes. On voit que les écoles fonctionnent, même si certaines classes sont fermées. On reprend les activités culturelles, les activités sportives. Donc on voit bien qu'on est dans le monde d'après la pandémie.
Est-ce que de nouveaux vaccins seront nécessaires ? Je vous dis ça parce que, on connaît les vaccins, ils vont évoluer. Même les vaccins que l'on connaît, Pfizer, Moderna ou d'autres, vont évoluer. De nouveaux vaccins seront nécessaires, comme pour la grippe. On a pratiquement un vaccin différent chaque année.
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Soit le vaccin évolue parce qu'il devient, par exemple, une seule dose. Il entraîne encore une plus grande efficacité, une meilleure tolérance, ou alors la composition du vaccin lui-même change parce qu'il faut s'adapter au virus. Pour l'instant, c'est trop tôt. Il y a des vaccins qui ont été évalués, qui pour l'instant, les données ne sont pas publiées. Évidemment, les vaccins ne sont pas du tout sur le marché. Ces vaccins ont été conçus pour être plus adaptés à certains variants. Et en fait, on s'aperçoit dans les données préliminaires qu'ils ne sont pas forcément plus efficaces que le vaccin originel, en particulier le vaccin ARN messager. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on aura de nouveaux vaccins, enfin de nouvelles compositions vaccinales, peut-être.
Karine Lacombe, l'épidémie baisse fortement, on l'a vu. C'est le cas dans d'autres pays d'Europe, et je prends l'exemple du Danemark qui abandonne le pass sanitaire. Est-ce que nous, Français, nous devrions abandonner le pass sanitaire ?
À terme, bien sûr, à terme. Alors, dans quel
délai ? Ça veut dire quoi, à terme ?
Écoutez, je n'ai pas
Quelle est la notion de temps vous avez, vous, infectiologue ?
Je n'ai pas de boule de cristal pour savoir quand les conditions sanitaires seront optimales.
Mais quelles sont les conditions sanitaires optimales, selon vous ?
Eh bien, un taux d'incidence très bas, un hôpital
qui n'est très bas aujourd'hui. Il commence à devenir très bas.
Alors, il faut qu'on consolide. C'est vrai qu'il a beaucoup baissé. Il faut qu'on consolide, qu'on se donne quelques mois de recul, parce que ce qui serait extrêmement dommageable, c'est qu'on lève dès maintenant les obligations liées au pass sanitaire et qu'on ait un rebond dans 2-3 mois par ces 10 à 15% de Français qui ne sont toujours pas vaccinés. Donc, il faut qu'on continue. Et on voit bien qu'on a du mal à les toucher, ces 10-15% de Français qui ne sont pas vaccinés. On arrive un petit peu moins de 90%.
Donc, si les plus réticents se font vacciner, il faudra abandonner le pass sanitaire, c'est bien cela ?
Ah bah oui, bien sûr.
Message que vous envoyez aux antivax ou aux anti-pass sanitaires, qui souvent sont les mêmes.
Oui, c'est un message que j'envoie à ceux qui doutent encore, qui ne sont pas profondément anti-vax. Je pense que les personnes qui sont profondément anti-vax, c'est vraiment une position qui est politique. C'est difficile de combattre ce type
peut-être.
Philosophique, politique, etc. Mais il y a encore des personnes qui ne sont pas persuadées ou qui ont très peur de l'injection, qui ont très peur des effets secondaires. Maintenant, on a beaucoup de recul. Ces quelques pourcentages de personnes-là, c'est peut-être celles qui vont faire la différence.
Donc, vaccinez-vous
sur le pass sanitaire.
Vaccinez-vous et le pass sanitaire sera abandonné, quoi. C'est le message.
Bien sûr, c'est le but. Bien sûr,
c'est
ne pas maintenir encore des mois le pass sanitaire.
Quand vous voyez un pays comme le Danemark qui abandonne son pass sanitaire.
Mais on ne peut pas comparer la population du Danemark avec la population française.
Non, c'est vrai.
Voilà, c'est difficilement comparable. Et d'ailleurs, l'épidémie du Danemark a tout le temps été.
Oui, mais la Grande-Bretagne, on peut comparer. La Grande-Bretagne a choisi de ne pas l'imposer, le pass
sanitaire. Bien sûr, mais vous avez vu après combien d'erreurs. Un nombre de décès beaucoup plus important que le nôtre.
Ce serait une erreur.
Des hôpitaux qui ont été submergés plusieurs fois.
Ce serait une erreur de l'abandonner aujourd'hui.
Je pense que ce serait beaucoup trop tôt.
Beaucoup trop tôt ?
Encore trop tôt.
Bien. Les anti-vax, les anti-pass sanitaires, on vient d'en parler. Des maires, des directeurs d'hôpitaux, des médecins appellent à un sursaut républicain face aux attaques. Aux attaques contre les acteurs du monde hospitalier. Vous avez été victime de ces attaques, vous, Karine Lacroix.
Bien sûr, j'ai également signé des tribunes, fait des conférences de presse pour dénoncer les menaces verbales, mais également les menaces physiques envers les soignants.
Vous êtes toujours victime de menaces ?
Ah, bien sûr. Menace verbale, bien sûr.
Menace verbale, comment ? Comment s'exprime-t-elle ?
Sur les réseaux sociaux, par mail, et puis physiquement dans la rue. En face à face dans la rue, bien sûr.
Physiquement dans la rue, c'est-à-dire ?
Face à face dans la rue, des menaces verbales.
C'est-à-dire ?
Des insultes, des accusations d'être responsable de l'enfermement de la population française.
Oui. Oui. Menace publiée notamment par un hébergeur de tribunes complotistes. Je pense à France Soir.
Oui.
Ça vous est arrivé, ça vous est...
Bien sûr, bien sûr.
Récemment.
D'être nommément désigné, bien sûr.
Nommément désigné. Vous avez déposé plainte ou pas ?
Je n'ai personnellement pas déposé plainte moi-même, parce que déposer plainte depuis un an et demi, je l'ai beaucoup fait.
Ça n'a servi à rien ?
Beaucoup, voilà, vous savez, déposer plainte pour des mots, c'est pas toujours vraiment pris en considération, à moins qu'il y ait une répétition extrêmement importante qui confine au harcèlement. Mais en revanche, les autres personnes qui ont été nommées dans cette plainte ont déposé plainte, oui.
Ouais. Vous continuerez à vous exprimer, Karine Lacombe, d'ailleurs vous êtes là.
Bien sûr.
Librement.
Voilà, absolument. La parole est libre. On est dans un pays démocratique où il y a un droit. Où la liberté d'expression est extrêmement importante. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est souvent l'objet de menaces et de calomnies sur les réseaux sociaux ou de calomnies dans les médias traditionnels. Et malgré tout, il n'y a pas de mesures qui sont prises parce qu'on est dans
Pourquoi
la liberté est-ce d'expression.
Qu'il n'y a pas de mesures
Donc,
qui sont prises. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, justement, est-ce qu'il n'y a pas de sursaut républicain, c'est ce que disent tous ces médecins ou directeurs d'hôpitaux qui sont attaqués.
Le droit en France est tout de même bien fait. On encadre la liberté d'expression qui est très importante en France, mais il y a des limites à ne pas franchir. Ce que l'on demande, c'est que les limites à ne pas franchir soient effectivement imposées à ceux qui les franchissent. Quand par exemple, dans cette tribune de François, on appelle de façon absolument évidente à passer à la guillotine les soignants pratiquent la vaccination et qui se sont engagés dans la pandémie pour lutter contre le virus, oui, il faut faire appliquer la loi.
Oui, il faut faire appliquer la loi.
Bien sûr.
Et là, il y a danger.
Je pense que là, il y a danger. Il faut vraiment qu'on se rende compte qu'il y ait une prise de conscience citoyenne, mais également une prise de décision politique contre les dérives de la liberté d'expression qui peuvent confiner, on l'a vu, à l'appel au meurtre.
Karine Lacombe, est-ce que vous portez encore un masque ?
Alors,
je vous pose ça. Où portez-vous encore un masque ? Je vous dis ça parce qu'on va vous imiter.
Je porte un masque évidemment à l'hôpital.
Bien sûr.
Je porte un masque dans tous les endroits publics où il est nécessaire de porter un masque. Après, quand je suis avec mes amis, quand je suis dans ma famille, non, je ne porte plus de masque.
Et
autour de moi, tout le monde est vacciné.
À l'extérieur, vous portez encore
à l'extérieur, je ne porte pas de masque.
Ce n'est plus utile aujourd'hui de porter un masque à l'extérieur ?
À l'extérieur, on n'a plus besoin de porter de masque actuellement.
On n'a plus besoin
de porter de masque actuellement. on l'air, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on recommande d'aérer les pièces qui sont fermées. À l'air libre, maintenant, on n'a pas besoin de porter de masque, absolument.
Merci, professeur Karine Lacombe.
Merci de votre invitation.
Vous étiez sur RMC et sur BFM TV ce matin. Il est 8h54. Demain,